Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, ça continue tous les jours. 15h-18h sur RMC. Et alors, d'ici 18h, vous allez passer un très bon moment. D'abord parce qu'on va écouter l'interview de Fabien Galthié de bilan du tournoi Destination, déjà.
Il vient nous voir tout
ça. C'est un événement.
Une fois par an, il vient, il débriefe le tournoi. Franchement,
il faut un peu insister quand même. Il aime se faire prier.
Il aime que Vincent l'appelle, lui envoie un petit SMS.
On aime la polémique.
On aime la polémique.
Non, mais on s'en fout de la polémique. Fabien, on veut juste parler rugby. Et puis, vous aurez un petit bonus quand même, je vous le dis. Un petit bonus Didier Deschamps, bien sûr. On va pas se cacher, on va pas faire semblant. C'est bien du Didier Deschamps. Et des petits problèmes de prononciation. Allez, pour démarrer, c'est l'OM. Habib Bey, coupable ou victime de cette fin de saison en lambeaux de l'OM?
Ce soir.
À chaque journée, il peut y avoir un perdant. On veut pas être de ces équipes-là.
On le surnommait le cookie.
Si un jour on avait dit contre Bruges, on allait faire la passe à 10, à 5 minutes de la fête pour pas me prendre un quatrième, je l'aurais pas cru.
À cause de sa capacité à s'approprier le bien de ses victimes.
Je fais plus mon programme du week-end par rapport au match de l'OM, ça c'est la vérité.
Il recrutait ses victimes par petites annonces, un peu au hasard.
Ça me gonfle.
Il leur volait leur bien et leur vie.
À Marseille, plus en plus de jeunes se retournent vers le PSG, puisque ça fait plus rêver. Donc
sans état d'âme et sans regret.
Et à la fin du match, il vient me voir en me disant « Tiens, pour le petit Cruyff », il me dit.
Et quand on le soupçonnait, il inventait des histoires à dormir debout.
Et si demain, les dirigeants considèrent que la réussite du Stade Rennais ne se fera plus avec Habib Bey,
commence à me gonfler.
Pourquoi ce voleur de vie a-t-il encore longtemps fait parler de lui?
Ils sont obligés, vous êtes obligés de mobiliser deux policiers pour chaque personne.
Faites entrer l'accusé.
À partir du moment où la justice retirera son verdict...
Ce soir à 21h10 sur RMC Découverte et RMC BFM Play.
Et je m'en souviendrai toute ta vie.
RMC, le gros débat du Super Moscato Show.
Je te jure, c'est que à force que ça passe, je me dis un jour Pierrot il me sauvera plus. Il me sauvera plus. Et chaque fois tu me sauves, Pierrot. Merci quand même. Je remonterai ça toute ma vie quand même.
Incroyable quand même. C'est incroyable.
Des fois je me dis, il va me laisser tout seul.
On continue sur l'OM. Donc Habib Bey cristallise les critiques depuis son arrivée à l'OM. C'est 9 matchs, 4 victoires, 5 défaites. Mais la question, Vincent, est-ce qu'un autre aurait fait mieux dans ce contexte, dans ces circonstances quand même, où c'est très difficile d'avoir une autorité et d'avoir simplement une direction, hein, puisque on ne sait pas si Habib Bey sera là l'an prochain, on sait que Mehdi Benadir ne sera pas là, c'est compliqué. Alors Habib Bey, coupable ou victime? 32-16, Vincent Moscato, ton avis?
Tu parles du contexte, mais c'est le contexte qui fait les entraîneurs à Marseille. Le contexte est mauvais. T'as tout un tas de autour d'interférences qui font que.
Même si t'arrives en début de projet, c'est pas pareil que si t'arrives là maintenant.
Oui, mais la preuve, en début de projet, qui c'est qu'il y avait en début de projet? Il y avait deux Herbi qui étaient déjà arrivés l'an dernier. Il était en début de projet, ça n'a pas marché non plus. Alors après dire ouais, non mais lui s'il était resté, d'abord on n'en sait rien. Et puis ensuite, le mec s'est barré. Le mec s'est barré parce qu'il voulait plus y être. Et puis en plus, personne l'a retenu. Ils l'ont retenu un peu, mais bon, ils étaient très irrégulier quand ils ont attaqué cette année. Et puis je te rappelle que l'an dernier ils devaient gagner avec deux Herbi, devaient garder pratiquement tous les joueurs et repartir sur la saison qui avait pas été mal l'an dernier. Et bien ça n'a pas été vérifié, quoi. Je veux dire, ils ont changé encore l'effectif, tout ça, donc il y avait pas d'assises. Donc dire que Semi avait deux Herbi, oui, si tu veux, peut-être que tu aurais quelques points de plus.
Alors attention, écoute, Vincent,
le mal est profond.
Je te recadre sur le débat, c'est pas là, ça, t'es en train de faire le débat de la question moyenne qui
ouais,
est
ouais, non, mais
si on avait gardé deux Herbi, est-ce que l'OM aurait plus de points? La question,
coupable ou victime?
Habib Bey, coupable de la situation ou victime de la situation?
Mais des victimes, des coupables, c'est des irresponsabilités les deux. Et qu'est-ce que tu veux, il a sa responsabilité en tant qu'entraîneur. Les victimes, Pierrot,
quand il reprend sur deux Herbi plutôt.
Finalement, c'était mieux ton premier débat que tu n'avais pas compris.
Ça commençait, Pierrot. Non, mais Habib Bey, il est coupable. Alors, si tu veux, il est coupable, si tu veux. Après, moi, je vais te dire, qui tu mets là? Qui tu mets, c'est la même. Alors, tu fais venir qui? Dis-moi, qui tu veux venir? Parce qu'en plus, il faut plaire aux supporters. C'est quand même
non, mais ça,
il faut plaire
aux supporters. Moi, je pense que l'erreur majeure qu'ils ont, c'est qu'ils ont remplacé un intérimaire par un autre intérimaire. Ben oui, c'est-à-dire qu'il fallait, de mon point de vue, garder Pancho Abbandonado, peut-être un peu plus longtemps, en attendant de trouver l'entraîneur qui va faire la saison prochaine.
Mais ils l'ont pas trouvé.
C'est mais non, mais quand ils l'ont pris, ils pensaient qu'il allait faire la saison prochaine.
Je suis pas sûr.
Bien sûr. Mais non, moi, je suis persuadé. Vous le qualifiez de remplaçant. Je suis pas persuadé que les mecs Benatia, quand il a pris, il était sûr qu'il allait faire la saison qu'il a enquillé.
Je sais pas, puisque Mehdi Benatia, il a dit qu'il prolongeait que jusqu'à la fin de saison. Pour rendre mais service. Non, mais
quand il le prend au départ, au début, il maquille un peu le truc en disant, il va faire jusqu'à la fin de saison. Mais dans sa tête, il se dit, si ça marche avec lui, on le prolonge. D'abord, c'est moi qui l'ai choisi, c'est mon homme, on va continuer. Et puis là, patatras,
d'abord,
victime Benatia, il va dégager. Donc, victime, bien entendu, du mec qu'il a mis en place, puisque automatiquement, la crédibilité d'un mec qui va partir en fin de saison, ben, c'est pas tout à fait quand même, c'est pas des assises, c'est pas une assise assez solide. Donc, lui, il est victime, Habib Abelula, il est victime de la direction, de tout le monde qui pète, du président qui l'a fait venir, de Benatia, parce qu'il se casse. Et puis après, il a sa responsabilité parce que ça marche pas. Mais la même responsabilité, c'est un marasme. L'équipe aussi, c'est pas non plus toujours la faute de l'entraîneur si les mecs, ils jouent comme des chèvres quand même non plus. Donc il est victime de son équipe qui vaut rien et à la fois, il est coupable de pas faire marcher son équipe, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quand même tiré par les cheveux, mais heureusement que je suis assez fort et que j'ai assez de profondeur pour m'en sortir brillamment.
Tu es parti de Loïc quand même. Hein. Mais j'ai envoyé sur le débat de demain qu'on n'a pas encore décidé.
Oui, mais moi, tout à l'heure, je suis tranquille parce que j'ai
déjà fait un peu. Alors, moi, si je veux rester logique par rapport à ce que j'essaie de dire tout le temps, c'est-à-dire que pour moi, les joueurs sont les premiers responsables quand ça marche bien et quand ça marche moins bien, c'est-à-dire qu'ils ont une grande part de responsabilité. Le joueur, c'est celui qui fait que le joueur ou le groupe de joueurs ou le collectif ou ce qui crée le collectif ou la force collective des mecs fait que tu gagnes, tu perds ou en tout cas tu joues bien ou tu joues mal ou en tout cas tu as envie de bien jouer ou tu as envie de gagner. Ça c'est le principal. Donc si je veux rester raccord avec ce propos là, droit dans mes bottes, je dirais plutôt qu'il est victime parce que il arrive malgré tout dans une équipe qui avait perdu le fil depuis un long moment et on va même plus loin parce qu'on a fait les débats, peut-être même sur un effectif qui a été surévalué ou surcoté par rapport à la réalité de cet effectif-là. Alors peut-être que individuellement, quand les mecs sont arrivés, on s'est dit tiens oui c'est pas mal. Mais la mayonnaise finalement a jamais prise et y a pour moi une grande responsabilité des joueurs, c'est-à-dire que quand je vois certaines fautes défensives de certains joueurs qui sont tricotés, comme Pavard par exemple, ou d'autres, je me dis, l'entraîneur il peut faire ce qu'il veut, c'est pas possible quoi, voilà. Donc, mais d'un autre côté, on est obligé malgré tout de le pointer comme coupable dans le sens où quand il part de Rennes où il est en échec et où on se rend compte aujourd'hui qu'il avait perdu son vestiaire, et c'est ce que je te disais hier Pierrot quand je t'ai proposé un peu cette espèce de débat là, c'est que à Rennes il perd son vestiaire, on le sait, il y a des tensions, il en met certains même plus sur le banc puisque Samba il s'était coupé de Samba de quelques-uns là, on est d'accord hein. Mm-hmm. Voilà, donc Aize arrive, hop, tout le monde repart sur la au même niveau, les meilleurs jouent et ça gagne et au point qu'ils passent devant nous, voilà. Donc on nous explique encore qu'il a perdu son vestiaire, donc il est peut-être coupable de
ne mais il a la tête à ça quand même.
Avoir du mal, ça peut être un constat, ou en tout cas un apprentissage pour lui, qu'il faut qu'il fasse attention, quoi. Quand tu arrives comme ça dans un club qui est traumatisé, ben peut-être être un peu plus rond, un peu plus facile pour les mecs et jouer sur le côté confiance que leur balancer des tactiques et des machines, là, comme, d'après ce que j'ai compris, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de dire les deux, mon commandant, victime et coupable.
Ouais, mais je comprends pas que toi tu me pourris quand je dis les deux. Toi tu dis les deux, tranquille. Tranquille,
j'ai les mains au nid. Non, moi, les deux.
Quand je dis les deux, c'est bien, mais quand.
J'ai dit les deux, c'est pas bien. J'ai dit les deux en embrouillant, comme ça, ça n'y met du coup.
Voilà, d'accord.
Alors, Habib Bey, victime ou coupable? Oui, par contre, quoi?
Après, quand même, il a la tête, quand même, ça fait chier avec tout le monde, hein, je te le dis, moi.
Habib?
Parce que, quand tu dis, Eric, t'as raison, il faut être rond, quand même, il faut pas faire que des grandes explications. Il faut des fois être avec les mecs. Tu vois, faire partie du groupe, vraiment être avec les mecs, si tu veux pas perdre ton vestiaire, parce que ça, si tu le perds deux fois, les prochains présidents, ils vont le prendre en compte avant de t'embaucher, quand même, hein.
Stephen Brun.
Pour moi, il est coupable. Il est coupable. Alors, il a quelques circonstances atténuantes, c'est-à-dire que, on a vu qu'avant lui, avec un coach qui est quand même bien plus expérimenté que Roberto De Zerbi, le résultat n'était pas au niveau quand même des attentes et que beaucoup de joueurs étaient décevants individuellement, mais Habib Bey il est coupable parce que en Ligue 1, la majorité des clubs qui ont changé de coach, il y a eu des choses en plus. C'est-à-dire qu'un coach, il te permet soit d'avoir des meilleurs résultats, mais surtout, il permet peut-être de relancer des joueurs. Quand je vois Pocognoli, qui est arrivé à Monaco, les résultats de Pocognoli avec Monaco, il relance Balogun. Quand Boiré, il a relancé Moses Simon, qui mettait pas un pied devant l'autre, et puis il a relancé je sais plus qui, Jonathan Ikoné. Francaise à Rennes, il a relancé tout le monde. Citez-moi un joueur que Habib Bey a relancé depuis qu'il arrive à l'Olympique de Marseille. Nib. Il n'y en a pas. Ensuite, c'est un très bon orateur. On l'a vu lorsqu'il était consultant. Elles sont passées où, ces qualités d'orateur, notamment à Marbella, où tu pars en stage pour 5 matchs à jouer, où tu es censé, sur ce stage-là, rencontrer tes garçons, leur expliquer c'est quoi le projet, pourquoi on est là, les discours de motivation sur les 5 matchs à jouer, et pour faire le caca qu'ils ont fait à Lorient, ça veut dire que lui, il a échoué aussi dans sa mission de parler aux joueurs et de trouver des mots pour faire bloc. Les résultats, bon, on en a parlé. Il est peut-être à trouver une équipe démotivée par la perte de la Ligue des Champions, mais t'arrives dans une équipe où il y a un objectif qui est encore fort et qui doit permettre de motiver les garçons, qui est la Coupe de France, où t'as la possibilité éventuellement d'aller en finale de la Coupe de France. Il arrive, déjà il prend une tôle à Brest, mais c'est son premier match, donc on va lui trouver des excuses parce qu'il n'a pas eu le temps. Tu perds cet objectif-là. Ce qui fait que t'as plus les joueurs, et lui, il n'a pas trouvé la capacité pour récupérer les joueurs et pour faire briller les joueurs, et il y a des choix catastrophiques. Comment tu me mets Abdelli contre Lorient, titulaire au milieu de terrain, un garçon qui n'a pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, il est coupable, il y a des circonstances atténuantes, mais Habib Bey, c'est un échec retentissant, et le double échec retentissant, Eric en a parlé, c'est quand tu fais la comparaison avec Rennes. Il part de Rennes, Rennes a 31 points, aujourd'hui Rennes en a 53, ils ont pris 22 points depuis le départ d'Habib Bey, quand l'OM en a pris 12, et tout va bien, et Rennes est devant l'OM. Donc Rennes plus l'Olympique de Marseille, ça fait beaucoup, ça fait trop.
Non, mais là, c'est vrai que c'est terrible pour lui, hein, cette comparaison.
Ah ouais,
Rennes est terrible pour lui.
Ouais.
Alors, la parole au supporter Guillaume, a composé le 32-16. Salut Guillaume.
Salut Pierre, salut mon
Catocho. Salut Guillaume, supporter du Stade Rennais, tiens.
Ah, tiens. Ouais. C'est la première fois que vous passez à un Rennais, c'est pour parler de Marseille.
C'est pas faux.
Un Rennais qui est content, donc.
C'est pas faux, non. Des fois, quand vous êtes en finale de Coupe de Rennais, France, on parle de Rennes. Hein.
Ouais, c'est rare. Mais Habib Bey, victime de son boulard. C'est un mec qui a un ego surdimensionné. Il te fait des raisonnements en conférence de presse.
Il est coupable de son humilité, donc.
Ouais, c'est ça. Quand tu fais autant de raisonnements en conférence de presse, il y a un moment donné, il faut que ça se voit sur le terrain. Tu racontes à tout le monde comment marche le football. Bah, gars, si t'arrêtes pas les résultats et ton équipe joue n'importe comment, bah, derrière, t'en payes les pots cassés. Enfin, à Rennes, vous parliez du premier match à Marseille, à Brest, où il perd, il a pas de chance. À Rennes, ça me rappelait qu'il avait gagné 2-0 contre Strasbourg. Mais c'est un hold-up, le match. Donc, peut-être qu'à Rennes, il a eu de la chance de faire un hold-up, et il s'est mis peut-être, 2-3 mois à l'abri. Sauf que derrière, en un an, il a perdu tout son vestiaire. C'est un mec qui te fait des raisonnements, il t'explique la vie, sauf qu'à ce niveau-là, c'est de la pommade. Faut mettre de la pommade, faut leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils jouent bien, qu'ils sont forts. Si tu fais pas ça, les mecs, tu les perds. Et au premier accro, c'est fini, terminé. Aurait fallu faire, à la limite, t'arrives à Marseille, tu fais un stage. Un stage commando, toi, Marbella,
et
comme ça.
Et ça, il va en Marbella.
En fait, l'OM, c'est des stagiaires. C'est des stagiaires, l'OM, en fait. Ils partent en stage.
Non, mais là, Eric, vas-y.
Non, mais j'entends ce procès...
parce que il était consultant, parce que il avait des avis tranchés et assurés. Mais tu peux pas. Fais moi pour moi. Et c'est vrai que ça joue contre lui. Donc ça, malheureusement, c'est la réalité. Oui, oui. Mais nous, on passe nos journées aussi à faire des raisonnements. Et en ouais. plus, on n'est même pas entraîneur ouais, et on n'a même pas le courage d'y aller
Vincent,
sur le banc.
Vincent était coach, donc, il était très bon. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas reprocher à un consultant, enfin un mec a été consultant d'avoir été consultant d'avoir fait des raisonnements sur le foot. Et nous, on en fait aussi des raisonnements. Et nous, on est encore pire, nous. On fait des raisonnements sur tout, pas que sur
Eric,
le foot.
Je te dis pas ça. Quand il était consultant, il était très bon. J'étais le premier, j'aimais bien comment il parlait. Je te dis juste que une fois que t'as fini d'être consultant, t'es coach, t'arrives en conférence de presse, un peu d'humilité. T'arrêtes de raconter à tout le monde comment on va jouer parce que le foot c'est comme ça, comme ça. Tu t'arrêtes de bomber le torse. C'est un
oui,
peu simple.
Ça c'est...
En fait, ce que tu dis est vrai. Guillaume, en fait, ce que tu dis ne change rien à son travail. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va faire qu'il ait des résultats ou pas, qu'il est bon ou pas.
Mais ça joue contre lui.
C'est catastrophique en termes de communication. Et comme l'a rappelé Pascal Duprat, parce que je pense que tous les entraîneurs français l'attendaient au coin du bois avec un fusil, et là, il se régale. C'est que, comme l'a dit Pascal sur RMC ce week-end, alors donc, le monsieur qui nous expliquait que tout passe par le jeu, que les équipes françaises n'étaient pas assez ambitieuses.
Les entraîneurs français
n'avaient pas d'idées, pas d'ambition, et qui nous proposent la bouillie qu'on voit sur le terrain, bah là, c'est sûr qu'il va se faire massacrer. En revanche, Guillaume, il ne faut pas confondre ses erreurs de communication et sa responsabilité. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que c'est à cause de ça qu'il n'y arrive pas.
Tu peux attention à l'état d'esprit, Guillaume, il n'a pas tort. Hein. Attention à l'état d'esprit, les gars. Quand tu fais des raisonnements et tout ça, que tu fais des grosses conférences de presse, je ne le connais pas, moi, mais j'ai l'impression qu'il parle beaucoup.
Le foot, c'est factuel.
À un moment donné, quand tu dis je vais en stage à Marbella, mais tu penses que quand tu es au sein d'un club, moi, je suis président, je dis putain, il est motivé, on va faire un stage où ? À Marbella ? Ah non, moi je croyais au deuxième rêve à Castres. Les équipes de rugby à Castres, à Montagne, il y avait des sacs de 30 kilos sur la gueule, et là tu unifies un groupe, tu vas pas à Marbella. Si tu veux faire le com, moi si je veux pars en vacances, si on part nous le Moscato Show, on va à Marbella.
C'est pas la peine d'aller si loin, tu sais, mais ça va aller à la Jonquera,
ça s'arrêtera peut-être là-bas. Vincent, ce serait pas le moment de faire un stage aussi pour nous?
Moi je trouve qu'il y a une mauvaise ambiance dans cette équipe. On devrait partir à ça. Propose à Karim pour voir s'il est d'accord.
Je voulais vous en parler. J'ai quelques adresses, croyez-moi, pour se régaler. Mais nous on joue pas au foot derrière. Le problème, mais déjà la communication, tu dis aux supporters marseillais, on fait un stage à Marbella avec l'autre qui t'a mené, un stage à machin, à truc chouette. Déjà, t'as des centres d'entraînement, le stage il est là. Et puis si tu veux faire un stage, c'est un stage chez les paras ou un truc d'unification, un truc où tu vas faire des trucs différents. C'est pas chez les à Marbella, chez les Brésiliens, en vacances, quoi. Mais au Cap d'Agde, t'as les amener au Cap d'Agde aussi avec Patrick Sébastien, quoi.
Non mais Pierrot, je comprenais ce que disait notre auditeur, parce qu'en effet la communication, de coach est importante aussi, et ça fait partie du métier aujourd'hui encore.
Ça fait pas tout.
Moi j'ai insisté. Ça joue contre lui, quoi. Voilà, quand tu as des beaux discours et que tu expliques, oui. Mais moi par contre, je ça me gonfle parce que je vois passer des vidéos là de ce moment où quand il était consultant, il faisait son métier de consultant.
Oui.
Donc et le plus beau, c'est que les mecs qui le critiquent, ils ont encore moins de légitimité que lui pour critiquer Habib Bey, tu vois, c'est-à-dire c'est ça qui m'a fait rire. Tu l'as vu cette vidéo où il parle de Luis Enrique là, tu l'as vu passer. Alors c'est sûr que là d'aujourd'hui tu vois ça, il faisait son job, mais les mecs qui balancent ces vidéos, c'est-à-dire qu'ils ont jamais joué au foot et ils expliquent ce que doit faire Bey, tu vois, ou ce qui c'est pas de ça, c'est encore pire, quoi, tu vois.
Ce qui serait bien, Eric, c'est que on invite Habib Bey en tant que consultant et qu'on lui demande ce qu'il pense de l'OM et qu'il donne son avis en tant que consultant.
Il y a de quoi devenir schizophrène.
Mais écoute, merci Guillaume. Des entraîneurs qui sont devenus des très bons consultants, croyez-moi, il y en a peu. Hein.
Entraîneurs qui sont devenus des bons consultants. Oui, mais alors lui, il a fait un truc unique. C'est que c'est la première fois qu'un mec était consultant
se vendait
et qu'il est il a dit suis en fait un entraîneur.
Je crois que Vincent parlait de lui.
Non mais dernier mot, Pierrot, sur ça.
J'ai pas capté la vanne de Vincent parce que j'écoutais moyennement. Que son parcours, il est totalement unique. Alors c'est un mec qui a la légitimité pour se reconvertir en entraîneur. Il était joueur de haut niveau, il y a pas de souci. Mais en fait le problème le boulet qu'il traîne, c'est que lui il est venu. En fait il a pris un risque énorme. Il est venu, il a pris à partie des médias pour dire il avait aucune expérience. Moi, je vais entraîner un grand club, j'ai des idées, oui, je oui, suis non, ça, un grand coach. Avant même d'avoir mis un pied sur le terrain.
Surtout, Pierrot, il prenait son rôle de consultant. Il était très bon sur les analyses, mais il prenait cette fenêtre et cette scène où il avait le droit à la parole pour un peu se vendre et expliquer ses idées footballistiques au club qui cherchait un coach aussi.
Oui, mais alors. J'aimerais quand même le défendre sur ça parce que les fameux coachs, les fameux coachs qui font la navette entre je suis d'abord entraîneur, mais quand j'entraîne pas, je vais faire consultant. Quand ils sont consultants, vu qu'ils cherchent un boulot, ils disent rien. Donc eux, il faut aussi qu'ils arrêtent de nous faire quand tu es dans la machine, ben ne te mets pas à l'extérieur de la machine, tu vois, parce que sinon t'es pas crédible non plus. Tout ce que tu dis, ça sert à rien puisque c'est calculé tout ce que tu dis. Tu te dis qu'à un moment donné, tu vas pas critiquer le président qui pourra un jour peut-être te prendre. Tu vois, donc là c'est pareil. Donc il faut qu'ils arrêtent les mecs de nous faire des raisonnements,
Après Eric, toi tu pourrais rigoler quand on fait des trucs sur Deschamps.
Ouais, exactement.
Non, moi ça me fait pas rire parce qu'on respecte le sélectionneur national.
T'as bien être pris avec Zizou quoi, et Luis Fernandez.
Non, moi je respecte le sélectionneur national contrairement à Luis.
Et Franck Ribéry, n'oublie pas. Et oui, et l'OM qui reprend là, ça y est, c'est reparti, la Liga.
C'est chaud, c'est bien.
Avec une toute nouvelle équipe, un nouveau projet, des joueurs qui vont encore arriver.
En fait, champion l'OM.
Alors l'OM 2026-2027 n'aura rien à voir avec l'OM 2025-2026.
Tout est changé. Le rugby tout de suite, avec un bon débat. Le top 14 est-il devenu une ligue fermée? Et c'est Vincent qui devait régler le problème.
C'est impossible de se maintenir quand on est promu en top 14 désormais. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, dans un quart d'heure, Journal Moyen, deuxième édition.
Oui, avec des vents radiophoniques de Vincent et puis plein de saucisses, le Journal Moyen que vous aimez.
Troisième heure exceptionnelle, avec l'interview de Fabien Galthié et puis du Didier Deschamps en bonus track.
Ah, petit bonbon. Mais d'abord le rugby, Pierrot, tout de suite.
Le top 14 est-il une ligue fermée?
Antoine, 39 ans, a posé ses valises à Montauban.
Une maison située dans un quartier pavillonnaire.
La petite sœur de Toulouse a connu une renommée internationale.
Sincèrement, la désindustrialisation a commencé, on va dire, sous Mitterrand.
Depuis sa création, Montauban a connu des centaines d'inondations.
Voilà, c'est la liberté, t'es content quand il fait beau, après bon, quand il pleut moins, mais...
Laissons aux habitants un souvenir amer.
Au moment où la viticulteur...
qui ont des indemnisations qui sont pas à la hauteur de leur perte,
je trouve que c'est tout à fait logique qu'on les indemnise.
Aujourd'hui encore, s'y pressent de jeunes amateurs d'art.
Des activistes quand même très idéologisés.
Et on fait de cette ville, au climat contrasté, une destination convoitée.
Ça n'a jamais été mon truc, autrement, on prend trop des exilations.
Moscato, il va te le régler le problème.
C'est à la feuille, ils sont tous illuminés.
On le connaît maintenant, ça nous fait un peu moins rire quand même.
Ça, là, c'est un crash, par contre.
Mais ça, c'est un vrai crash.
Mais ça, à la fin de tout ce qu'on a vu avant, ça. Le bouquet final. Alors, c'est le corso fleuri.
Le spécial rugby du jeudi avec Midi Olympique. Nous accueillons Pierre-Laurent Gou. Bonjour Pierre-Laurent.
Bonjour messieurs.
Pierre-Laurent. Et ainsi que Pierre Thévenet de la rédaction rugby d'RMC Sport. La rédaction rugby d'RMC Sport, tu sais qu'ils sont nombreux maintenant.
Oui, il y a beaucoup de monde.
Ça sent un peu comme un Midi Olympique, un point fictif. Ouais.
Non, il travaille, Pierre.
Lequel vous nous enviez le plus, Pierre-Laurent? Wilfried, bien sûr.
Alors envier, non, j'aimerais bien qu'il soit dans notre équipe parce que, pardon ça. Pierre, je connais. Voilà, Wilfried, entre guillemets, il nous enquiquine parce qu'il travaille bien.
Ah, voilà, oui.
Ah,
oui. Non, mais on est en
concurrence.
C'est dit, on est au niveau général.
Au middle, ça ne doit pas être terrible du coup.
Ils sont méchants.
Non, mais ils avaient pris Wilfried. C'était
Wilfried est en vacances pour deux semaines.
Ils ont porté de petits chiots, là, ils ont pris Wilfried. Voilà.
C'est méchant.
Qu'est-ce qu'il raconte?
Il est susceptible, Wilfried.
Non, c'est un vrai neuf.
Rochelet surtout. Ouais. Hein.
Bonjour
alors, Pierre Laurent, voici le thème du jour. Le top 14 est-il une ligue fermée? Pourquoi cette question? Vous allez écouter Sébastien Thioux-Bord expliquer les difficultés de Montauban et franchement, c'est hyper intéressant. Il faut peut-être réformer le système de montée-relégation, Vincent. Top 14 pro D2. Et puis, si on en vient à dire que c'est vraiment une ligue fermée ou quasi, est-ce que ça vous dérange finalement? Vincent, tu vas régler ce problème. Donc, Pierre, hier. Montauban, on a l'impression, savait à l'avance que ce serait mission impossible en top 14.
Ouais, une victoire, 22 matchs, 7 points. La saison est déjà terminée pour les Montalbanais en top 14. Tu l'as dit, on savait que ça serait compliqué. C'est lié à ce système de Pro D2, puisque les Tarn-et-Garonnais ont terminé 6e l'an dernier. Et après des fascinales exceptionnelles, et qui sont lucratives pour la Ligue, c'est pour ça qu'elles existent, ils sont montés sans être prêts du tout pour l'élite, raconte justement le manager Sébastien Thiusbord.
On était 6e, on n'a pas du tout préparé de monter, puisque un an avant, le club a failli descendre en national. Et on a fait des phases finales qui étaient incroyables. On est monté de cette manière-là, mais le club n'était pas prêt à monter.
Quelques joueurs recrutés au dernier moment, un ancien All Black Fisita pour venir aider le groupe. Mais en top 14, le rythme est différent, avec des blocs parfois de 11 matchs contre 5 ou 6 matchs en Pro D2. Les budgets, évidemment, sont tout autres. Et ces joueurs n'ont pas tenu le choc.
Que le niveau, la différence, elle est énorme sur les joueurs individuellement, mais elle est surtout énorme sur la cadence du championnat. C'est une grosse différence par rapport à la vie de famille. Il y a des joueurs de Pro D2, ils sont pas câblés pour jouer en top 14. Moi, j'ai aujourd'hui des joueurs que j'adore, hein, mais qui n'ont pas le niveau pour jouer en top 14. Et donc, j'ai un tiers de l'effectif qui est capable d'y jouer. J'ai un autre tiers qui est pas capable. Il y a un autre tiers qui a pas envie d'y jouer. Pas envie parce que le championnat n'est pas bien, mais parce que la vie de famille, elle est différente. Et en fait, il faut vraiment préparer ton effectif pour se monter là.
Montauban, c'est un cas extrême, Vincent, mais depuis 2018, année à partir de laquelle le premier de Pro D2 ne montait plus directement, mais il y avait système de fascinale où il fallait aller jusqu'à la finale pour monter. Les vainqueurs ont du mal à s'installer. Perpignan et Bayonne ont dû redescendre avant de pouvoir remonter. Les trois derniers vainqueurs, Montauban, Vannes et Oyonnax, n'ont fait qu'une seule saison dans l'élite. Cette année, le Provence Rugby de Philippe Saint-André est à la lutte. En D2, il entame lui un projet sur le long terme.
C'est pratiquement une vision à 3 ans, c'est-à-dire tu montes, tu redescends, t'as eu 9 chances sur 10 de redescendre. Pourquoi ? Parce que le marché au 15 juin, eh ben, il n'y a plus beaucoup de très bons joueurs. En faisant l'ascenseur et en ayant après un effectif de qualité, un effectif prêt à jouer au top 14 sur la 3e année. Donc, je le trouve complètement malhonnête intellectuellement que Vannes, qu'il a actuellement à 104 points, etc.,
monte pas.
Ne sait pas et ne sait toujours pas si elle va monter en top 14.
Depuis, Van a encore accentué son avance, 24 points d'avance sur le deuxième, mais ils vont devoir attendre et atteindre la finale du championnat le 6 juin prochain pour pouvoir monter.
Là, faut prendre des risques. Quand t'es Van, faut prendre des risques. Faut déjà recruter avec.
Ils ont commencé. Tu peux mettre des clauses aussi en disant si on monte pas, tu viens pas finalement.
Après, c'est difficile parce que les mecs se retrouvent à poil. Après, les mecs se retrouvent à poil. Il n'y a plus de club. Les mecs ont fait leur marché. Donc voilà, le sujet, il est là. C'est que le premier doit monter, surtout quand il se l'est pelé, qu'il a de l'avance, parce que souvent il est bien structuré. Et souvent, quand il est monté comme ça, ça veut dire qu'il a souvent de l'oseille, c'est-à-dire un budget capable de prendre des joueurs et capable de tenir la route en top 14. Donc voilà, on le sait, on en a déjà parlé. On comprend même pas que les mecs soient obligés de repasser par les phases finales pour pouvoir monter.
Ça fait
l'accession pour le premier doit être directement par rapport au classement. Mais ça, je sais pas. Il y a des fois, il y a des bons trucs au rugby, mais alors il y a des trucs cons des fois.
C'est des matchs en plus.
Comment ?
Vincent, tu as raison sur le fond, mais c'est la forme de notre sport. Mais sur la forme, si le rugby dit au revoir à ses phases finales, je ne sais pas si on est prêt.
Tu peux les faire comme tu les as toujours fait. C'est-à-dire que les phases finales ont toujours été
à partir
faites,
du deuxième,
même quand le premier montait.
Alors,
sauf que le problème d'une
équipe, mais ce serait la même chose pour celle qui sortira des play-offs.
Tu fais ton premier, monte directement, mais il n'est pas champion de France. C'est-à-dire qu'il fait ses phases finales après.
Ça veut dire que il y a une limite dans ce raisonnement, ça veut dire que vous présumez comme ça que le premier il a toujours beaucoup d'avance et il sait qu'il va monter très tôt. Mais qu'est-ce qui se passe les saisons où ça se joue à la dernière journée, il aura pas le temps de préparer.
De temps en temps, il y en a un qui monte.
Adrien a raison,
qui se tire la bourre et le champion est désigné à la dernière journée, il n'aura pas préparé son mercato.
Mais il le sait au moins 3 semaines, un mois avant, parce qu'il n'a pas toutes les phases finales à faire.
Oui, bien sûr.
Donc il gagne quand même du temps. Mais après, le rugby, la Ligue avait proposé cette solution avec le premier qui monte et qui est champion de France et des phases finales pour la
deuxième montée. Ticket.
Mais on se rendait compte, et notamment une année, je sais plus qui avait fini premier de poule, mais Bayonne qui avait gagné la finale d'accession, on appelait ça, tout le monde pensait qu'ils étaient champions de France.
Ah oui.
Et donc du coup, et on s'est rendu compte dans d'autres divisions, si tu mets pas une sucrerie au bout des phases finales, elles perdent toute leur saveur et du coup les équipes les jouent pas.
Tu fais le premier.
Non mais c'est une vraie question, c'est une vraie équation, Vincent. C'est soit il faut soit phase finale, soit pas de phase finale.
premier monte, ouais. monte et fait les phases finales. Il n'est pas, le premier qui monte n'est pas sacré champion de France.
Il a juste son accession.
Et pour être champion, il faut jouer le titre. C'est quand même pas compliqué. Tu peux le dire, c'est clair. Alors, que le premier n'est pas champion.
En fait, pourquoi c'est compliqué, c'est si tu veux faire un deuxième ticket d'accession. C'est-à-dire que tu
le finaliste.
Non, mais pas forcément, parce que c'est complètement déséquilibré, puisque ceux qui sont du côté du champion.
Et puis on oublie, maintenant le top 14 est très content d'avoir plus qu'une seule relégation et un match et un accès match.
Ça a été fait pour protéger le top 14.
Alors voilà,
tout à fait.
Ça maintenant c'est l'autre aspect qui est hyper important. Mais d'abord on va prendre l'avis d'Éric et Denis. Déjà sur le système de monter en top 14, Denis.
Non mais je comprends que la ligue veut pas enlever les phases finales, veut pas enlever le trophée. Donc ça je le comprends. Et je suis pas contre, moi je trouve que c'est vrai que c'était une division, de pas faire un titre de champion de France, c'est quand même c'est pas notre culture en fait. C'est-à-dire que tu vas monter premier, tu montes en première division, t'as rien vécu en fait. Et ça nous est arrivé avec Vincent quand on a fait le Stade Français, qu'on est monté directement, il n'y a pas eu de titre. Donc on n'a jamais eu de titre. Non mais c'est vrai, c'était il y a 25
pas
y a 20
de bonus,
ans.
Pas de planche. Bon,
mais
non, sans de planche.
J'en ai eu tellement que c'était pas grave.
Mais moi pourquoi j'ai une question et je sais pas y répondre, est-ce qu'on peut pas avancer la Pro D2?
Ah, il y a 16 équipes,
ouais, c'est
Denis,
pas bête,
faut la faire.
Est-ce qu'on pourrait avancer,
décaler, parce qu'il y a, très peu d'internationaux concernés.
Il y a ce fameux access match, ou max d'accession, qui vient une semaine après la finale de Pro D2, parce que déjà le perdant, le finaliste, doit digérer cette défaite. Et si jamais tu la décales et que tu fais la finale avant, et qu'un principe
non,
de match de barrage.
Non, mais toute la saison.
Mais tu peux plus faire ce match de barrage avec le top 14 si tu décales la saison de Pro D2.
Non, la solution, Vincent l'a dit, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est plus de phase finale en Pro D2. Et le premier monte et basta. Le deuxième joue le match d'accession avec le 13e de.
Alors Eric, quel est ton avis?
Bah écoute, on l'a fait et je crois même que ce lièvre-là,
on l'a levé depuis un moment.
On l'a levé depuis un moment et j'avais été frappé parce que je suis un peu le Provence rugby, donc il y a une saison où ils avaient fait une saison extraordinaire et du coup je m'étais rendu compte que alors ils n'avaient pas fini premier mais je m'étais rendu compte à ce moment-là que le premier de Pro D2 ne montait pas directement et je vous l'avais dit à la radio j'avais dit mais les gars comment c'est possible et surtout à l'époque j'avais parlé donc avec le président du Provence rugby il me disait mais tu te rends compte qu'avec tous les matchs qu'il y a pour pouvoir monter,
c'est fou,
quand
c'est
je vais monter, je même si j'ai de l'argent, j'ai plus personne à recruter. C'est-à-dire je me retrouve avec une équipe, j'ai pas pu prendre le risque de prendre des joueurs de top 14 parce que ça coûte très cher et du coup je me mettrais en danger financièrement pour la Pro D2 parce qu'il y a pas beaucoup de revenus malheureusement. Et dès que je peux le faire, j'ai plus personne à prendre. Donc je me retrouve avec une équipe de Pro D2 top 14. Et donc, il m'a dit, donc là, les gros clubs se protègent avec cette formule parce qu'il y en a qu'un qui descend. Et en plus, c'est toujours le même qui descend, c'est-à-dire le petit qui vient de monter. Donc eux, ils sont tranquilles. Et c'est le système de la Ligue fermée, mais qui ne veut pas le dire parce que, comme ils n'ont pas les cojones de le dire, ils font semblant. Voilà, ça c'est très rugby, ça, tu vois.
Éric, tu avais raison jusqu'au bout, je viens de vérifier. Provence Rugby, lors de la saison 2023-2024, avait fini premier de la saison régulière.
Ils avaient fini
6 points devant Vannes. Voilà.
C'est ça,
Philippe Saint-André nous a dit, Provence, il s'est gardé 3-4 places dans son objectif. Il a fait son recrutement pour la saison prochaine, mais il a gardé 3 ou 4 places pour des joueurs non gifs, des Anglais, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains. Au cas où il monte, il prendra des joueurs.
Et Philippe, là où il a été malin, c'est qu'il a surtout négocié son augmentation s'il monte.
Non, mais
c'est surtout que de faire remonter le premier et de continuer à faire des phases finales pour le reste, où est le problème? Je comprends pas.
Il
n'y
a pas de titre. C'est sur la finale des phases finales, en fait, Eric.
Il n'y a pas de phase finale. C'est quoi l'explication, Pierre-Laurent?
C'est le désintérêt en fait des phases finales.
Là, il remplit
ça, mais c'est le
Non, mais en fait, il y a le stade qui remplit, mais surtout, Eric, il y a un problème de. C'est le diffuseur qui est content. C'est-à-dire que ces matchs-là, sur le public rugby, les audiences des phases finales pour le titre de Pro D2, ça cartonne pour Canal.
Non, mais ça change rien.
Mais si, pour le titre.
Mais non, mais il y a quand même le dernier de top 14 descend et il y a le l'avant-dernier qui fait un barrage.
Oui, mais tu joues pas pour le titre, la phase finale c'est en Pro D2 du coup, tu joues plus pour le titre de champion.
Mais alors attends, tu sais qu'il y a le truc champion de France, c'est pas vainqueur de la Coupe de France. Tu gagnais pas de tournoi en match à élimination. Champion de France, c'est quand sur toute la saison, tu es devant. Alors ne pleurez pas. Une ligue fermée, c'est une ligue fermée, vous êtes content.
Justement,
vous prenez des carottes et voilà.
Alors on va aussi parler de l'autre aspect du débat, parce qu'il est clair que ça arrange beaucoup de grosses écuries, puisque désormais c'est très difficile entre guillemets de descendre quand t'es bien équipé,
bien sûr.
Quand t'as un gros budget, ça veut dire que les clubs peuvent travailler assez sereinement en fin de compte.
Bien sûr.
Et ça, toi, tu l'appelles de tes vœux quand même, Vincent.
Bien sûr.
Donc, mauvaise solution finalement
millions, Tu peux pas leur dire tu du jour au lendemain parce que tu descends des deux parce que t'as fait une mauvaise saison. Donc il y en a un comme ça qui monte, c'est très bien. Dans la difficulté peut-être, mais c'est très très bien parce que tu peux pas. C'est d'abord la plupart. Faut bien dire un truc, c'est qu'ils peuvent pas. Mais beaucoup n'ont pas les moyens parce que Montauban, même s'ils finissent un mois et demi avant, ils n'ont pas osé pour recruter.
Si tu veux faire des coups,
Montauban l'exception.
Mais Oyonnax aussi, après les mecs,
Regarde Van.
Mais après tous les autres, c'est 18, 20 millions pour dans les droits de télé à tout casser. Alors il n'y a plus un mec sur le marché, en plus ils n'ont pas un Louvé. Quand tu n'as pas un Louvé, tu ne peux pas casquer, papa.
Mais là où tu te trompe
Vincent.
Là où tu te trompes Vincent, c'est que je parle de club de Pro D2 que je connais, le Provence Rugby. Ils ont des moyens. Le jour où il va aller à top 14, je peux te dire que mon pote Denis Philippot, il va mettre des sous.
Mais t'as entendu tout simplement Philippe, c'est quand même fou de te dire que en fait ils programment une montée descente. Dans leur stratégie sportive, ils se disent on monte, on redescend, on remonte et on est prêt.
Parce que si tu ne remontes pas tout de suite, t'es mort.
C'est foutu, oui. Le cycle, il est
parce que t'arrives trop tard. C'est ce que le disait bien Philippe, c'est que tu arrives sur le marché des transferts. Il y a plus de bons joueurs véritablement sur le marché. Et donc du coup, c'est pour ça. C'est pas une histoire de moyens, Vincent. Parce qu'il faut pas prendre Montauban. Ça a été une exception. Montauban, ils étaient sixième. Sébastien Thiulsport le dit bien dans l'interview. Ils imaginaient pas. Et ils font un immense exploit. Et du coup, après, ils ont pas.
On va aller à
Les sous. Les sous, Denis. Van les ont. Grenoble les ont. Aix-en-Provence les ont.
On décide de pas faire du haut niveau.
Pas cette année, mais ça fait 3 ans que Grenoble pouvait monter et avait les structures et les finances pour monter.
Ou alors
Brive a aussi les moyens. C'est pas une histoire de moyens. La Pro D2 maintenant, il y a plein d'équipes qui ont des budgets à 15-20 millions. Hein.
On décide de pas faire du haut niveau et on rajoute 4 clubs comme en Ligue 1 ou 5 clubs et on fait un mélange d'amateurisme et de sport de haut niveau. Voilà. Comme ça, on est 20 clubs en top 14 et puis on en fait monter 2.
On va en discuter avec un supporter d'un club concerné. C'est Mathieu, supporter de Vannes au 32-16. Salut Mathieu.
Salut Mathieu.
Mathieu, quel est ton avis sur notre débat?
Moi, je trouve que il faut que le top 14 se réinvente, que la Pro D2 se réinvente, parce que ça commence à devenir même un peu inintéressant, parce que une année sur l'autre, c'est celui qui monte. Parce qu'une année sur l'autre, on connaît déjà celui qui va finir 14e en général. On sait comment ça va se passer. Celui qui redescend de Pro D2 en général, celui qui descend de top 14 en général, refinit premier de Pro D2. Il fait le yo-yo comme ça jusqu'à un moment où les investisseurs et la motivation va s'arrêter et puis ça va être un nouveau qui va reprendre la place.
Ah oui. Donc l'an dernier,
laisse-le finir.
Parce que moi je trouve ça inintéressant et du coup au final, on voit le problème sur le rugby Pro D2 top 14. Mais moi, ce que je trouve aussi, c'est que niveau rugby, on va dire amateur national 1, national, il y a des clubs qui se cassent la gueule parce qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent pas non plus à monter aux étages supérieurs, les investisseurs lâchent. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe? On reste dans une zone où il y a une trentaine de clubs en France et puis c'est tout, point barre.
Mais c'est le principe.
Mais oui, le principe. Non,
c'est le principe du haut niveau.
D'accord.
C'est le principe du haut niveau.
C'est pas le principe du haut niveau, c'est le principe d'une ligue fermée. C'est pas pareil.
Et oui,
elle est entièrement fermée quand même.
Non, mais là où.
Elle a trouvé un
grand nouvelle. Vous ne voulez pas écouter.
Alors attends, vous, chacun son tour.
Éric de dire vous voulez pas, alors, vous si, vous là, vous voulez pas, t'as pas raison surtout, Éric.
Juste deux secondes, je vous fixe les règles. Il reste très peu de temps et beaucoup vont l'intervenir. Donc chacun son tour. Par contre, Éric, pas de provoque, juste ce que t'as à dire.
Non,
et rapide, surtout rapide et concis.
Alors, rapidement, vous voulez pas écouter l'auditeur. Ce que dit l'auditeur, il a raison, c'est que un investisseur en Pro D2 qui va faire le yo-yo deux, trois fois, et un jour, il va pas le faire le yo-yo parce qu'il y a l'incertitude du sport. Eh ben, le mec, il va mettre la clé sous la porte, il va partir.
Mais oui,
mais l'économie, mais votre économie de D2, les gars, mais regardez quand même la réalité. Les clubs qui disparaissent, quand même.
Qui a fait
Bayonne et Perpignan. Bayonne et Perpignan ont fait le yo-yo avant de pouvoir.
Mais regarde Biarritz.
La question, c'est qui est parti d'investisseur parce qu'il montait pas.
On finit là-dessus. Pierre-Laurent, est-ce que tu as une idée en tête, un exemple d'un investisseur qui s'est découragé de ce système?
Mais Biarritz. Alors, t'as un investisseur qui s'est découragé, peut-être pas, mais on voit parce qu'on voit.
Mais ça a réduit la voilure.
Les deux exemples qui ont marché, c'est Bayonne et Perpignan. Qui ont, et l'auditeur a raison sur le manque d'intérêt, notamment sur la place de 14e de Top 14 et le haut de Pro D2. Et on voit qu'on connaît très souvent l'équipe qui va monter ou qui doit monter et surtout l'équipe qui va descendre. Oyonnax, Vannes et Montauban étaient programmés.
Voilà. Est-ce qu'ils vont se maintenir cette année, les promus?
Ah,
c'est possible.
C'est possible. Ils ont de belles équipes. Jolis budgets, de belles équipes. Ouais. Dans un instant, le journal moyen, deuxième édition avec une séquence que vous adorez. Vincent, quand il prend des bides à l'antenne, il fait des vannes, il tombe à l'eau. Ce sont les vents radiophoniques.
Les vents à la française.
On adore ça, les vents à la française, c'est tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 16h45, journal moyen, deuxième édition.
La deuxième édition aujourd'hui sur RMC, le retour des vents radiophoniques. Vincent nous propose deux nouveautés. Bravo et merci Vincent. Un Dembélé en forme sur le terrain et en interview. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Quelqu'un est-il en route vers un grand chelem?
Non.
Aïe, aïe, aïe. Vous écoutez RMC, c'est le 2637e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen, deuxième édition.
Service après-vente du Moscato Show, jingle Vincent.
Bonjour. Oui.
C'est Suzanne qui choisit le jingle. Hier, très léger, mais on est sur un fil. Vincent voulait nous citer une phrase d'Armand Vacrin, ancien grand joueur de rugby, malheureusement décédé. Il n'est plus avec nous, Vincent. Attention à la mâchoire, Vincent.
En région parisienne, il y a des gros clubs dans ton coin, il va peut-être aller naturellement
vers le rugby. Dernière question. Alors, donc, il faut le mettre sous le bar, mais je vous rappellerai un poète, un ancien pilier de Béziers, Armand Vacrin, qui n'est plus devenu nous, qui disait la musculation, ça n'a jamais fait pousser les couilles.
On était sur un film, mais ça passe, Vincent. En revanche, ça n'est pas passé pour Stephen Brun. Magnifique mâchoire paralysée de Stephen Brun hier. Il nous parlait de boxe de Christian Billy. Stephen?
Pierrot, ce qui est sympa, c'est que Christian, c'est peut-être le boxeur qu'on a le plus reçu dans le Moscato Show. Et oui. Moins présent que puis vous. Vous l'avez.
Oulala, oulala.
C'est pas la peine. Vous êtes très jeune.
Ça mérite un petit replay, s'il vous plaît.
Moins que puis vous.
Gros plan audio, vocal sur la mâchoire de Stephen, s'il vous plaît.
Christian, c'est peut-être le boxeur qu'on a le plus reçu dans le Moscato Show. Et moins présent que puis vous. Vous l'avez. Oulala,
oui.
Alors là, quand même.
Ça fait plaisir de dire
un Christian Billy
dans le Super Moscato Show. Christian, il sera là et il combattra avec Denis. Sans transition, j'ai deux nouveaux vents radiophoniques présumés à vous offrir. Mm-hmm. C'est Vincent qui nous les offre. Jingle, vent radiophonique.
Calabresa, testadour. Et moi, je pense que c'était mental, parce que moi, j'avais commencé à travailler, j'avais 17 ans.
Bravo pour votre livre, Au revoir là-haut, je l'ai lu, je me suis régalé, monsieur le maître. Voilà, je me suis régalé.
Voilà. Bon, ça, c'est les vents ultimes, inégalables. Hein, voilà.
Ouais,
c'est premier vent offert hier par Vincent. Pierrot, tu accueilles un auditeur qui voulait débattre de foot avec nous. Il s'appelle Cédric. Il a appelé le 32-16, c'est comme ça, sur RMC. Et Vincent nous offre ce petit moment suspendu. C'est très rapide.
On va donner la parole au supporter de l'Olympique de Marseille, Cédric. Salut Cédric, 32-16.
Salut Céd.
Salut Cédric.
Ça va Peut-il rester à l'OM, Greenwood?
C'est drôle de nom, Cédric 32-16. Ouais. Comment ça va?
Ça va et vous?
Très bien, admirable. Tout ça bricole.
Voilà, l'auditeur n'a pas percuté. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. D'ailleurs, tu m'as insulté direct, tu l'as senti que j'allais préparer. Ouais,
c'est un enfoiré. De suite, j'ai appelé Fred et j'ai dit, il a dit
deuxième vent.
Ça.
Deuxième vent, et là, c'est Pierrot qui t'a pas respecté du tout. On parlait de Leinster face à Toulon, et je vous dis à ce moment-là, Surveillez si vous êtes parieur. Charles Olivon, en général, il marque un essai sur ce genre de match. Juste derrière, Vincent nous offre ce petit moment suspendu.
C'est Mignoni, il est au bord avec le Takiwalki. Il fait hello papa tango Charlie. Il dit, hop, et là Charlie, c'est une annonce, il marque en bout de ligne. Voilà.
Avant le Kikadi, nous allons humer l'atmosphère de la Ligue des Champions direct du Parc des Princes.
Retour sur l'obsession d'Éric Dimeco, jingle obsession.
Tu as retouché une perche depuis que tu as arrêté. Ça existe les concours de perche de vieux.
Il a vraiment posé cette question.
Jean Galfion, j'étais honteux, j'étais sous la table à ce moment-là.
Jean Galfion, on a fait une fois maintenant.
Ça devient très inquiétant.
Si vous avez honteux de tout, quand même.
Ça devient très inquiétant, l'obsession d'Éric Dimeco, l'obsession sur la chose. Hier, on rigole. On dit qu'Éric, pendant le débat tennis, on dit bah, t'es un tennis, un footix. Écoutez juste la dernière remarque d'Éric une fois que Sarah reprend la parole. Ça devient très, très inquiétant. Tendez bien l'oreille, hein, parce que c'est très subtil. Il l'assume pas vraiment.
Autour de cette table, il n'y a que des spécialistes de tous les sports. C'est, bien
c'est un Formule X, Éric, c'est pas pareil.
Oui.
Ouais, moi, en général, quand c'est Formule X,
c'est tennis,
il va devenir footix en plein temps.
Donc oui, aujourd'hui, on se dit, effectivement, ceux qui ne sont pas pro-sineurs, ils se disent, Alcaraz va manquer.
Vous avez bien entendu, gros pénix. Voilà, c'est pas assumé du tout, mais c'est Éric Dimeco, oui, bien sûr. Éric, une justification à cette intervention?
Alors,
dis-moi, tu débriefes après revendique... avec Aurélie, non, tes émissions?
Non, je revendique. Ouais. Quand c'est moi.
Ouais.
Là, c'est pas moi.
Ah, c'est voilà. Fred. Pouillet.
On m'a soufflé. J'ai pas assumé.
Ah bon.
Et j'aurais dû la faire fort en disant petit pénix, mais gros pénix, ça faisait prétentieux. Ouais. Et c'est pas moi. Je suis pas prétentieux.
Donc c'est ça l'auteur à succès qui fait 10% de l'humour en France.
Non, mais c'est ça. Pénix avec deux manches. Maintenant qu'il avait deux manches, ça se tient.
Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Ouais, moi je vous ai déjà dit. Il m'a dit à mon prime, je suis plus fort que Baffy. Il a dit Fred Pouillet.
Ouais, mais au premier degré. Non, mais c'est fort, c'est au premier degré.
Ouais, mais le problème, c'est que son prime, c'est quand on l'a connu, nous.
Il a pas encore atteint, non?
Ah, ben oui.
Il a dit. Bon, je dis pas tout parce que.
Vas-y.
Non, vas-y. Il a dit tous les jours, je produis 8 minutes d'humour. En radio.
Il était cramé, non? Mais non, mais pour te dire ça, il était cramé.
Et après, il nous a raconté d'autres choses, on peut pas le dire. J'ai écouté l'after hier. Manu Petit nous parle d'Harry Kane et c'est Pierrot qui m'a signalé.
Ah oui, c'est mignon. C'est mignon, c'est subtil.
On peut ne pas le remarquer. Petit écart de Manu sur Kane qui allume la lumière pendant les matchs, Kane, pour son équipe.
La passe qu'il donne à Diaz, mais même la première passe qu'il donne au bout de 10 minutes de jeu, là, ce plat du pied.
Qui doit faire 2-0. Exactement. Il rate une grosse occasion.
Ce garçon, à chaque fois qu'il décroche sur le terrain, il éclaircit le jeu.
Il va pas vite en termes de
Il a un flingue, en plus.
Il éclaircit le jeu.
Il met un peu de blanc, il mélange et c'est éclairci.
Il est intraitable. Sans transition.
Il éclaire le jeu.
C'est l'instant.
Il éclaircit, ça passe.
C'est l'instant pousse.
Parce qu'on est des neuneux. Sinon, non.
Non, mais si c'était l'Académie française ici, à la limite, quand même.
Pierrot, est-ce que tu veux un instant Ous? Allez, jingle Ousmane.
Et vous êtes droitier ou gaucher?
Gaucher.
Sûr, parce que vous marquez aussi droit.
Ouais, je suis plus gaucher.
Et les pénaltys, vous ne les tirez pas du droit?
Si.
Pourquoi?
Parce que je tire mieux du droit.
Voilà. Ousmane Dembélé. Ça, il avait 18 ans. Hein. C'était à Rennes et son coach s'appelait Roland Corbis à l'époque. Dembélé, toujours aussi nature dans les médias spontanés. Hier, il est en duplex sur CBS, chaîne américaine. Vous voyez cette émission avec Thierry Henry, plein de consultants, la bonne humeur. Et un ancien joueur, un consultant, demande à Dembélé, mais comment tu fais pour avoir toute cette énergie? Tu attaques, tu défends à gauche, à droite. Comment ça se passe? Réponse très simple et très spontanée de Dembélé. Il parle de son patron.
You guys too. How do you have so much energy? The way you press, you play one wing on the right, on the left, central. What are you eating for dinner? I want to know, please.
Il veut savoir ce que tu manges parce qu'il a dit t'as trop d'énergie.
Non, c'est simple. Si tu presses pas, si tu défends pas, bah Luis Enrique va te mettre sur le banc.
Ah, ok.
C'est juste ça. If you don't press, if you don't run,
Luis Enrique puts you on the bench. Yeah. D'ailleurs, merci.
Voilà. C'est aussi simple que ça. Si tu presses pas avec Luis Enrique, tu vas sur le banc. Tout Dembélé que tu es. C'est ça aussi.
Là où Mbappé aurait pu se retrouver sur le banc.
Tout à fait. Kikadi.
Avec lui.
La première question du Kikadi, oui. Citation, est-ce que tu l'as, Denis ?
Hier quand même, je l'ai pas. Hier quand même, ça finit en eau de boudin quand même, Pierrot quand même.
Ah oui, non, très mauvais producteur, catastrophique.
C'est vrai.
Au lieu de jouer le suspense, quitte à avoir peut-être 30 secondes de retard. Ah,
excusez-le,
c'est le fameux metteur en scène de l'humour français, le meilleur.
Voilà. Imagine, le jour où il va faire une pièce de théâtre, j'attends la chute avec impatience.
Bon, voilà, c'est fini. Tous les matins, je produis 8 minutes d'humour. Voilà, c'est qui a dit ça, Fred Pouillet. C'est bon, les vents radiophoniques. On en redemande. Il va y en avoir cette saison.
Il y en aura, c'est certain.
J'ai hâte que ça reprenne.
Vincent se lance dans un truc un peu compliqué.
Déjà quelques-uns pendant le Tour de France. Vincent était pas là, mais j'ai de quoi faire pour les premiers journaux moyens.
Est-ce qu'on battra un jour la question Tom Hanks ? Je pense que ça sera difficile à battre.
Moi, j'ai un petit faible pour Bernard Lemaître.
C'est pas mal.
Monsieur Lemaître. Ah oui, non, mais ça, c'est magnifique. On va se le refaire, tiens. Après 17h, Pierrot, après 17h,
Fabien Galthié, le taulier est là. Nous. Oui. Fabien Galthié fait le bilan du tournoi sur RMC dans le Super Moscato Show.